Aí, sim. Ecco, avvenuto. Il est chez son père. Son père habite Beersheba. Le monde est à Beersheba. Il reçoit l'ordre de son père et de sa mère, on a vu la semaine dernière, de partir chez Laban. S'est présenté. Parce que c'est le père et la mère qui parlent ensemble, c'est le présenter comme tu vas chez Laban pour prendre épouse, pour épouser une fille qui ne soit pas une cananéenne, comme pour son père. Eliezer est allé chercher chez la famille là-bas d'Abraham. Toi aussi, tu vas là-bas pour les mêmes raisons. En fait, il y a une autre raison. Qui est que Rivka, elle a entendu que Esav a dit qu'il allait tuer Yaakov dès que son père serait mort. Il ne veut pas faire du chagrin à son père, donc il ne va pas le tuer du vivant de son père. Et dès que le père sera mort, il lui ferait la peau. Et donc Rivka, elle envoie Yaakov au loin le temps que la colère d'Essav s'apaise. Elle lui dit, tu vas là-bas et dès que ce sera apaisé, je t'appellerai, je te ferai venir. En fait, il n'a jamais reçu un tel message. Il n'a pas revu sa mère. Alors il est parti. Le passage nous dit, Vayetse Yaakov Beershava, Vayaleh Harana. Alors c'est très rapide. Vayevga Bamakom, et il est arrivé à un endroit. Il y a passé la nuit, etc. Donc on a le texte, il est un peu redondant en nous disant que Yaakov est sorti de Beersheba pour aller à Harana. Comme on sait des textes précédents qu'il était à Beersheba, quand on dit qu'il est parti pour Haran, ça suffit. On sait que s'il est parti en direction de Haran, ben on sait qu'il est sorti de Beersheba. Ben Rashi ramène le fameux Midrash qui dit que il y a des gens, quand ils vont d'un endroit à l'autre, pour certains, l'important, c'est l'endroit où ils vont, peu importe d'où ils partent. Ils n'ont peut-être pas de raison, ils n'auraient pas de raison de partir de cet endroit-là, mais ils doivent aller à un autre endroit. Et puis, il y a des gens, peu importe où ils vont, l'important, c'est de quitter l'endroit. Yaakov, c'est les deux. Yaakov, on nous dit, il quitte l'endroit, il doit quitter l'endroit et il doit aller à Paran. Donc, quand on met l'accent sur le fait qu'il va quitter l'endroit, le Rashi ramène que, en fait, quand un tzaddik quitte la ville, alors en vérité, tout l'éclat, tout le rayonnement, etc., de la ville en est affecté. Parce que c'est grâce à lui qu'il y avait ces qualités de la ville en question. Bon, en passant, c'est un peu compliqué. Parce que Yaakov, c'est vrai, s'en va, mais il reste Yitzhak, il reste Rivka. C'est pas rien. Ça veut dire, il est comme si Yaakov, à lui tout seul, était l'éclat de la ville, etc. Qu'est-ce qu'il en est de son père et de sa mère? Il y a chez Yaakov quelque chose qui est tout à fait particulier, c'est-à-dire que Yaakov, d'une certaine manière, c'est une forme de perfection et qui est une perfection plus totale que celle de ses ancêtres. Parce que Yaakov était, pardon, Avraham Avinu, sa mida essentielle, c'était Chesed. Celle de Yitzhak, c'était la Gvoura. Mais ces midot-là, ce sont des extrêmes. Et effectivement, parce qu'il y a un développement unilatéral, en quelque sorte, pour chacun d'entre eux, trop unilatéral, disons, alors il y a des éléments qu'il faudra éliminer. Il y a du chesed en trop qu'il faut éliminer par le biais de Ishmaël, et il y a de la gvoura qu'il faut éliminer par le biais des sables. Yaakov, lui, mitato shlema, comme on va dire par la suite. Samida, lui, c'est Tiferet, ça englobe et ça synthétise le tout. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il est lui, l'éclat de la ville de Beersheba, et quand il s'en va, bien, cette ville, elle prend un coup, quoi. Elle est moins attrayante, elle est moins belle, elle est moins parfaite.
Par rapport à la fin de l'autre, c'est la même chose, hein, ou pas?
Oui, il part sur l'ordre de son père.
Parce qu'on me dit qu'il est parti vers Padanaram.
Padanaram, c'est Haran. Haran, c'est là-bas. Padanaram, c'est la contrée. Et Haran, c'est la ville. Alors, il est parti. Donc, essentiellement, la raison pour laquelle il faut qu'il parte immédiatement, c'est parce que Essa va le tuer. Donc, a priori, il est parti. Seulement, comme vous savez, quand on fait le décompte des années de Jacob et le détail des endroits où, par où il a passé, on s'aperçoit qu'il y a un trou de 14 ans entre le moment où il est parti de Beersheba et le moment où il arrive chez Laban. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? On dit 14 ans, il a, ou itzmi, il s'est enfoui, pas enfui, hein, il s'est enfoui dans la yeshiva de Hever. Hever, c'est le petit-fils ou l'arrière-petit-fils de Shem. Shem avait ouvert une yeshiva et le continuateur, Shem est plus de ce monde, le continuateur, c'est Hever. Et donc, il s'est enfoui et il a vécu 14 ans dans cette yeshiva. OK. Alors, d'habitude, on comprend que la yeshiva, elle est quelque part entre Beersheba et Padanaram. Sauf que il y a un problème, c'est que la Gemara dans Rosh Hashanah, elle dit que la yeshiva de Hever, elle était à Beersheba. Donc ça veut dire que Yaakov, il n'a pas bougé de Beersheba pendant 14 ans. Et donc la question c'est, il part pour échapper à Esav, mais il commence par rester pendant 14 ans. Et il reste où? Il reste dans une yeshiva. Esav, il n'a pas besoin de toute sa sagesse pour bien comprendre que si que là où il faut chercher Yaakov, c'est un endroit où on étudie, donc il va aller chercher dans une yeshiva. Et donc, si d'abord, premièrement, il l'a pas trouvé, ou en tout cas, il l'a pas attrapé là-bas, d'une part, et deuxièmement, Yaakov, semble-t-il, n'avait pas peur, il est resté là-bas. Alors, je fais remarquer que l'expression que les Chachamim utilisent est une drôle d'expression. C'est marqué « Hitmin Atzmo ». Atmana, on connaît dans Shabbat, l'atmana, c'est quand vous voulez conserver une marmite au chaud ou l'envelopper dans une couverture ou dans quelque chose. Donc, ça veut dire qu'il s'est enfoui comme si il était dans la yeshiva, mais il n'était pas dans la yeshiva, il était enfoui dans la yeshiva. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Alors, qu'est-ce que ça... C'est pas, si les Chazal ont utilisé ce mot-là, au lieu de dire qu'il est allé lernen chez Ever, c'est qu'il y a quelque chose là. Alors, je ne sais pas, est-ce que... Hachem avait dit que, en fait, ça voulait dire que Yaakov, il avait dans cette yeshiva un bunker. Enfoui, il était dans un bunker. Alors, bon, c'était évidemment du béton armé, etc. Donc, ça, vous pouvez pas l'atteindre. On peut dire un petit peu presque la même chose, mais au lieu d'un bunker en béton, il était à un endroit où Esav n'ira pas. Yaakov était sûr que Esav n'irait pas là-bas. Parce que, vous savez, il y a, je ne sais pas si c'est encore vrai, mais pendant longtemps, si quelqu'un se réfugiait dans une église, c'était un sanctuaire. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas le poursuivre là-bas. Il y a une loi comme quoi on pouvait pas. Alors, il y a des gens qui ont transgressé, quand il y a des gens qui ont été arrêtés et tués, mais ça veut dire que il y a une notion de sanctuarisation de certains endroits. Et pour Essam, un endroit où chez Ever, Shiva, c'est sanctuarisé. Et Jacob était sûr qu'il viendrait pas là-bas. Il va pas mettre les pieds là-bas. Et il s'est pas trompé. Donc, ils se connaissent, hein, c'est des jumeaux, ils se connaissent. Il sait qu'il ne risquait rien. Il y a probablement quelque chose comme une sanctuarisation. Et c'est ça le bunker, c'est ça Itmin.
Un peu les Yirat Hamiklot.
Pardon?
Parce que l'Église a singé les Yirat Hamiklot en réalité.
Oui, mais nous, là, on peut arracher quelqu'un du Misbéach. Si un Rotsar se réfugie, on peut l'enlever de là-bas.
Quand il a tué volontairement.
Pardon?
Quand il a tué volontairement.
Oui, c'est égal, mais là-bas, je crois que la sanctuarisation, elle était valable pour tout le monde, quoi, a priori. Enfin bon, en tout cas, disons, c'est une façon de c'est un bunker différent, quoi, mais c'est il y avait quelque chose qui de un élément de protection dans le fait de s'enfouir dans une yeshiva. Et d'ailleurs, on voit bien que c'est pas que Esav s'était calmé, puisque ensuite, quand Esav va entendre qu'il est parti, il va donner l'ordre à son fils Eliphaz de rattraper Yaakov et de le tuer. Or, c'est connu, ça, oui. Il l'a rattrapé. Et quand Eliphaz est arrivé à la hauteur de Yaakov, Yaakov lui a demandé ce qu'il faisait là. Alors Eliphaz lui a dit, je suis venu te tuer. Comme je dis, si c'est moi qui avais écrit le scénario, j'aurais dit que Yaakov est plus fort que Eliphaz, ou bien il a tué Eliphaz, ou en tout cas il a rendu Eliphaz inoffensif. Mais bon, c'est pas moi qui ai écrit. Donc, ça se passe pas comme ça. Il faut savoir que Esav, c'est quelqu'un de compliqué, plus compliqué que ce qu'on croit. Et il a bien entendu éduquer son fils et il l'a enseigné à son fils. Il a enseigné la Torah à son fils. Où est-ce qu'il l'a enseigné, où est-ce qu'il l'a envoyé pour étudier la Torah? Il l'a envoyé chez tonton Yaakov. Que Yaakov est, bon, je l'ai déjà raconté plusieurs fois, que Yaakov est aussi le Rebbe, le maître d'Eliphaz. Il est son oncle et son maître. Donc Yaakov discute avec Eliphaz qui vient de le tuer. Et Yaakov, il a enseigné, il a rappelé un enseignement, je ne sais pas, à Eliphaz en lui disant, tu sais bien qu'il y a beaucoup de formes de mort. On peut être économiquement mort, on peut être socialement mort, on peut être physiquement mort, spirituellement mort, psychologiquement mort, etc. Et voilà, tu dois me tuer, ok. Yaakov sait très bien qu'on ne peut pas discuter avec Esav dans la mitzvah de Kibbud Av V'Em. Parce que les Chachamim disent que personne n'a jamais été mechabed son père comme Esav l'a fait. Esav, quand il servait son père, il mettait des vêtements royaux quasiment. Mais on voit très bien que quand il arrive chez son père, il ne lui parle pas du tout comme Akol Kol Yaakov, c'est-à-dire, c'est pas seulement que Yaakov, il a mentionné le Shem Hashem, etc., mais il manque l'emphase. Esav, quand il parle à son père, que mon père se lève, Yaakov, ma vie, etc. Alors que Yaakov, j'ai apporté à manger, quoi. Donc, on a expliqué que Esav, pour lui, la mitzvah de Kibbud Av V'Em, c'est une assurance vie. C'est-à-dire, il faut savoir qu'il y a beaucoup de peuplades, surtout les peuplades qui sont un peu nomades, où, j'ai vu ça chez Levi Strauss, c'est comme ça qu'il raconte que, par exemple, dans certaines tribus d'Amérique du Sud, je crois, les personnes âgées, elles se laissaient glisser en queue de peloton, quoi, et tout derrière. Il y avait des jeunes qui se mettaient des peaux de léopard et qui leur tombaient dessus et qui les tuaient. Parce que c'était un point mort pour la tribu, on ne pouvait pas attendre les trop vieux, il fallait. Donc ils savaient très bien, voilà, maintenant je suis trop vieux, il faut que je sois un poids pour la tribu. Et donc, comme il n'y a pas les hommes qui vont les tuer, c'est des léopards qui les ont tués. C'est pour ça que c'est déguisé comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand quelqu'un est vieux, ça dépend, aujourd'hui on peut parler des EHPAD, ce que vous voulez, quand quelqu'un est vieux, alors il y a des sociétés dans lesquelles on met des mouroirs pour les personnes, on les met à crever, etc. Il y a d'autres endroits où on s'occupe d'eux, et ça, il voulait qu'on s'occupe de lui quand il sera vieux. Donc il a investi, c'est une assurance vie, il a instauré une mitzvah de Kibbud Av V'Em faite de façon quasi extrêmement, de façon parfaite. Ça veut dire, quelque part, le vieux père, il est le maître, quoi, même s'il tient pas debout, etc. Il est très très bien traité. Pour être très très bien traité, il a investi que lui, il va faire la même chose avec son père. C'est ça le principe de l'assurance vie, quoi. Il a payé de son vivant pour que, sur ses vieux jours, il soit très bien traité. Donc, il n'y avait pas à discuter avec, en plus, dans la mitzvah de Kibbud Av, dans la version Esav, le père, il donne, il est souverain, c'est-à-dire, je vais s'expliquer que la mitzvah de Kibbud Av V'Em, c'est une mitzvah, quand c'est vu comme mitzvah, c'est une mitzvah sur l'enfant. L'enfant, c'est-à-dire, l'enfant, ça peut être quelqu'un qui a 60 ans et le père, il en a 90. Et, bon, l'enfant, c'est l'enfant par rapport au père, c'est une obligation de l'enfant. Mais ça n'ouvre pas, ce ne sont pas des droits du père sur l'enfant. Il n'y a aucun droit du père sur l'enfant. Mais chez Esav, la mitzvah de Kibbud Av, c'est en fait des droits du père sur l'enfant. Donc, le père impose à l'enfant une certaine conduite. Alors que chez nous, un père, il n'a pas, au titre de la mitzvah, c'est qui concerne l'enfant. C'est l'enfant qui doit honorer son père. C'est pas le père qui a un droit sur l'enfant. Il n'a aucun droit sur l'enfant. Il n'a pas de, en partir de l'enfant, bon, il y a éventuellement une espèce de rapport, dans la mesure où l'enfant est par exemple encore à la table de son père, alors que le père il n'a d'obligation que de le nourrir jusqu'à, je sais pas, Minatora, peut-être 5-6 ans, et après, ben, aujourd'hui, on dit, je crois que les rabbins disent jusqu'à 17 ans, 18 ans, je ne sais pas combien. Bon, mais dans toutes les civilisations, il y a des obligations. Et là, lui, il sait pas, Yaakov, il sait très bien que Eliphaz, il peut pas dire à son père, ben, je l'ai pas tué. Il faut qu'il puisse lui dire, je l'ai tué. Alors Yaakov lui dit, ben voilà, tue-moi économiquement. Dépouille-moi complètement. Et tu pourras dire à ton père que tu m'as tué économiquement. Et c'est ce qui s'est fait. C'est pour ça que Yaakov, à partir de ce moment-là, il est fauché comme les bêtes. Il n'a pas un rond. Rien. Quand il arrive chez Lavan, il a rien. Rien du tout. Rien de rien. Parce que il fallait vraiment le dépouiller complètement pour pouvoir dire qu'il avait vraiment tué économiquement. Et on voit nulle part que Esav ait fait des reproches à Eliphaz de ne pas l'avoir tué physiquement.
Il le sait.
Oui, il va le savoir. Oui, oui. Eliphaz veut dire exactement ce qu'il a fait. C'est pas, il ne pouvait pas discuter. Je crois qu'on ne discutait pas avec Esav. Donc Eliphaz a donc on voit très bien que c'est pas du tout, s'il l'a pas attaqué pendant les 14 ans qu'il était à Beersheba, c'est pas parce qu'il s'était apaisé. Il n'est pas du tout apaisé, mais il l'attaque pas à cet endroit-là. Donc voilà, donc il y a un bug, quoi, que on a l'impression qu'il est parti directement, mais il n'est pas parti directement, il a fait 14 ans. D'accord. Maintenant, la question est, il est allé à la yeshiva de chez Ever, enfin, qui était Ever à ce moment-là, le yeshiva. Qu'est-ce qu'il est allé apprendre là-bas? Je vous rappelle que quand il quitte Beersheba, Yaakov a 63 ans. Jusqu'à l'âge de 15 ans, Abraham était encore vivant. Donc, il a, jusqu'à l'âge de 15 ans, de Yaakov, il avait l'enseignement de son grand-père, d'Abraham Avinu. Et en parallèle, l'enseignement de son père, puis ensuite, toutes les années, il a appris chez son père. Qu'est-ce qu'il peut bien aller apprendre dans la yeshiva de Ever, qui n'a pas appris pendant 63 ans d'études, de Yoshev O'Alim? Il a fait qu'étudier chez Abraham et chez Yitzhak. Est-ce qu'il a appris chez Ever qu'il n'avait pas appris avant? Alors, l'idée, c'est la suivante. Yaakov a vécu, comme on vient de le dire, il a vécu dans la maison d'Abraham et d'Yitzhak jusqu'à cet âge de 63 ans. Donc, il était dans un milieu complètement acquis aux idées d'Abraham. Abraham avait certains disent des milliers, d'autres des dizaines de milliers d'élèves. Alors bon, que je sais pas, j'ai toujours remarqué qu'on voit personne dans les élèves de Yitzhak, mais peut-être qu'on n'en parle pas. C'est peut-être qu'il était là quand même. Bon. Ou pas. À cause de cette histoire de fusion, là, dont je vous ai parlé plusieurs fois. Donc, Yaakov, il ne connaît pas du tout un autre milieu que le milieu des gens qui respectent la Torah. Et maintenant, il va arriver dans un endroit d'idolâtre, d'assassins, gens qui respectent rien, même pas leur propre loi. Ils sont astreints, a priori, au Sheva Mitzvot de Bnei Noir, mais ils respectent rien du tout. Donc, comment il va faire? Il connaît pas la, il sait pas comment on doit se comporter. Ever est le petit-fils de Shem. Shem, c'est l'antédiluvien. Shem, il a vécu parmi les gens de la génération du déluge. Et il a vécu dans une famille qui était la seule famille, famille de Noir, la seule famille qui n'était pas idolâtre et tout ce qu'étaient les gens du déluge, de la génération du déluge. Donc Shem, il a appris à vivre dans un milieu totalement hostile. Donc ça, il l'a enseigné. C'est ça que Yaakov est allé apprendre. Il est allé apprendre pendant 14 ans comment on se conduit en milieu hostile, comment on se conduit en galout. Il faut définir la Torah du galout. Alors, le contenu, je ne le connais pas. Mais a priori, c'est ça qu'il est allé apprendre. Comment on doit faire pour se préserver, pour rester un tzaddik dans un milieu complètement hostile, dans un milieu de voyous, d'assassins et d'idolâtres. A priori, c'est ça. Ça, il ne pouvait pas l'apprendre chez son père ni chez son grand-père. Son grand-père, il a vécu aussi dans un milieu. Oui, son grand-père, il s'est complètement arraché de tout ça, et donc c'était pas son enseignement du tout. Son enseignement, c'était la nouveauté de. Ensuite, il est arrivé la chose suivante. C'est-à-dire, bon, maintenant il part, et il part de Beer Sheva pour aller à Haran. Et il arrive à Haran. Et tout à coup, il se dit, mais sur le chemin, j'ai passé à côté de l'endroit où mes ancêtres ont prié. Et moi, je n'ai pas prié. Comment ça se fait? Boss? Même problème. Ok. Donc, il a passé là. Et il s'aperçoit que, voilà, je n'ai pas prié. Alors il décide, il dit, c'est pas possible, je vais retourner. Et il décide de retourner. Et à ce moment-là, il a ce qu'on appelle Kfisat Aderech. C'est-à-dire, la distance a disparu en quelque sorte. Il est arrivé beaucoup plus vite. Il y a un problème? Oui, il n'y a pas un silo ici ou là. Il n'y a pas là. Il a Kitsat Aderer. Ça veut dire qu'il est. C'est comme si, au lieu de marcher normalement, il a été précipité. Et c'est pour ça que c'est marqué Vaïvga. Bamakom. Pogéa, ça veut dire collisionner littéralement. Pardon? C'est le deuxième pasouk, pasouk Yudalef, le 11. Le deuxième pasouk de la paracha. Vaïvga Bamakom. Donc il a collisionné, il est entré en collision avec l'endroit. Mais bien sûr, ça nous dit qu'il y a eu Kfisat Aderech, c'est pour ça. Mais en vérité, le mot Pegia, c'est un des dizaines, il y a une dizaine de mots qui désignent la prière. Et, parce que la raison pour laquelle il est revenu, c'est pour prier. Il est allé à cet endroit-là pour prier, parce que c'est l'endroit où Abraham et Yitzhak ont prié. Alors, c'est quoi? On nous dit Bamakom. Bamakom, ça veut dire Beha Makom, dans le lieu. Alors, on sait que Makom, c'est un des noms divins. Ouais, Baruch HaMakom. C'est un des noms divins qu'on explique en disant que toute chose qui existe, on dit que la chose a lieu. D'accord? Donc chaque chose dans le monde, elle a un lieu. Eshla makom. Sauf Akadosh Baruch Hu, le Créateur, qui lui n'a pas de makom, parce que c'est lui le makom du monde. Au contraire, c'est lui qui est le makom du monde. Makomo shel olam. Bon, mais là, il n'est pas. Alors, ou bien on dit Vayivga Bamakom, il a prié Hachem, mais a priori, Bamakom, c'est le correspondant dans l'espace, en quelque sorte, de cette notion de lieu. C'est le lieu par excellence, c'est-à-dire Hara Moria. C'est le lieu qui est le lieu où Abraham a sacrifié Yitzhak, et c'est aussi Hara Moria. Donc, ça s'appelle Hara Moria. Il y a toute une histoire parce que ça ne marche pas. Hein. Ce n'est pas vraiment Hara Moria. Et on dit que le Hara Moria, il s'est déplacé, il est venu à cet endroit-là. Bon, ça c'est bon. En tout cas, il est allé là-bas et il a prié sans doute. Et ensuite, on nous dit Vayalen Sham qui va à Shemesh. Et il a passé la nuit là-bas parce que le soleil s'est couché. Rashi dit, on aurait dû dire, le soleil s'est couché, il a passé la nuit là-bas. Pourquoi est-ce qu'on l'a mis dans cet ordre-là? Parce qu'en vérité, le soleil s'est couché, mais ce n'était pas du tout l'heure pour le soleil de se coucher. Le soleil s'est couché brusquement. D'accord? Il a fait nuit en plein jour. Et pourquoi est-ce qu'il a fait nuit en plein jour? Parce qu'Hachem voulait que Yaakov dorme à cet endroit-là. Donc, il a passé la nuit. Et puis, pour passer la nuit, là, il a Vaikach me avne à Makom. Il a pris de ces pierres du Makom en question, du lieu en question. Il a pris des pierres. Vayasem merashotav. Et il les a mis, je ne sais pas, comme pour se protéger, quoi. Et aussi comme oreiller. Après, clair, quels étaient les oreillers, quels étaient pour la protection. Protection contre les bêtes sauvages. Je ne sais pas quelles bêtes sauvages sont arrêtées par un petit muret de pierre. Il ne devait pas être très haut parce que sinon il ne pouvait pas mettre sa tête par-dessus. Donc, c'est un peu compliqué. En tout cas, voilà, il a mis ses pierres en place. Et Vayishkav, il s'est couché Bamakom Ahou. Alors, cette phrase-là, il s'est couché Bamakom Ahou, elle est complètement inutile parce qu'on nous a déjà dit qu'il va passer la nuit. Donc, simplement, quand on dit il a passé la nuit, ça veut dire qu'il a dormi là-bas, ou en tout cas, il s'est couché pour dormir. Bon, il n'avait pas tout l'équipement qu'avait Alexandre, mais bon, couché pour dormir. Alors, on dit que ça veut dire, pourquoi on nous dit qu'il s'est couché pour dormir, c'est inutile, c'était inutile de le dire. Donc, on apprend ici qu'il s'est couché alors que jusqu'à présent, il s'était jamais couché pour dormir. C'est pas qu'il n'a pas dormi, mais pendant 14 ans, pour dormir, quand il devait dormir, il dormait sur place. C'est-à-dire, il étudiait jusqu'à ce qu'il tombe de sommeil. Il tombait de sommeil, son bras, il dormait. Il n'y a pas si longtemps, peut-être encore aujourd'hui, des gens, des tzadikim, des gens qui, par exemple, ne dorment pas dans leur lit toute la semaine. Ils dorment dans leur lit Shabbat, mais le reste de la semaine, dès que le stapler, quand il était fatigué, il mettait son bras comme ça et il dormait. Le père de Abraham Kanevski, je ne sais pas. Abraham, je ne sais pas. Sur le stapler, on a dit comme ça. Je l'ai jamais vu, mais un petit comme ça. Il y a des rabbanim dont on raconte qu'effectivement, ils ne dormaient pas. C'est-à-dire qu'ils dormaient, bien sûr. Il y a une halakha, il y a une gemara qui dit qu'on ne peut pas rester 3 jours sans dormir. Bien sûr qu'ils dormaient. Ils dormaient quand il fallait dormir, quoi. Donc, le soleil s'est couché pour lui, pour qu'il dorme. Il a pris ses, il a organisé les pierres pour se, en oreiller, en protection. Et il s'est couché. Alors, cette histoire des pierres, qu'est-ce qu'on nous raconte, là, les pierres? Si on nous raconte ça, c'est essentiellement pour nous dire que les pierres se disputaient. Chacune voulait que Yaakov pose sa tête sur elle. Allah yaniach tzadik rosho. Donc, Hachem a réglé le problème. Ces 12 pierres, il en a fait une pierre. Donc, dans tout, enfin, où qu'il est mis, c'est toujours sur la pierre en question. Cette pierre en question, elle était, disons, elle avait un peu, à peu près un mètre de, à peu près un mètre de long. Bon, il l'a redressé, il l'a mis en. Et d'où est-ce qu'on sait que ces pierres ont été unifiées? C'est parce que après qu'il ait dormi, après le fameux rêve, Jacob s'est, quand il s'est réveillé, qu'il a pris conscience qu'il avait dormi à cet endroit-là, qu'il avait dit que c'est Shara Shamaim. Alors c'est marqué, il a pris une pierre, il a pris la pierre, et il l'a dressée, et il a versé de l'huile dessus. Il l'a mis en matseva. Alors, pourquoi il l'a dressé? Parce que, en réalité, à cette époque-là, c'est une époque où on avait le droit de faire des corbanotes sur des bamotes. Bamotes, c'est des hôtels. Ah oui, bien sûr. C'est des hôtels, éventuellement, comme les hôtels domestiques, un peu comme les favdalotes, mais comme les Chinois ont dans leur magasin, ce qui nous pose des problèmes en réalité, parce que s'ils mettent de la marchandise sur ces hôtels-là, ils s'appellent Tokrovet Abolazara. Nous, on n'a pas le droit de les manger. On ne peut pas les utiliser. Alors, il y a ceux qui on voit, mais je me demande si les Chinois, ils ont pratiquement pas tout. Si c'est pas au devant, mais c'est dans derrière, dans l'arrière-boutique, un hôtel sur lequel ils posent des choses, ils vont vendre, je pense que s'ils le font, c'est, donc je sais pas vraiment, c'est un peu embêtant tout ça. Enfin, il faut demander à un rabbin pour, qu'est-ce qu'on fait là, avec ces tacrovettes. Alors là-bas, c'est marqué. Alors, en vérité, à l'époque, on avait le droit de faire des bamotes domestiques ou autres. On avait, la elle est, à cette époque-là, on peut faire des corbanotes ou brûler de l'encens, etc., sur n'importe quel rocher. N'importe quel rocher, il a même pas, faut pas, on n'est pas du tout obligé de sortir de terre. N'importe quel rocher ou pierre, etc., on peut faire. Et par conséquent, lui, on se demande pourquoi il a redressé pourquoi il a dressé la pierre. Il a fait une stèle verticale. Alors en fait, le Chazonish, il a expliqué que même d'après ce Reb Shimon qui pense qu'on a le droit, ce que je vous ai dit là, c'est une opinion, ben, bon, c'est dominant, qu'on a le droit, on aurait eu le droit, mais le Chazonish dit qu'il faut quand même que ce soit, ça ait dit Farim de hauteur. Un rocher avec dit Farim de hauteur, ça marche. Donc, comme, oui, ça devait être, c'est pour ça que je vous ai dit que c'était un mètre. Mais comme ça, quand il l'a mis vertical, c'était à un mètre. Et là, là-dessus, il a versé de l'huile. C'était sa façon de ensuite, il a crié le Shem Hashem. Donc, c'est comme ça qu'il a pensé ça. L'offrande qu'il a faite à Hashem, la mincha qu'il a faite à Hashem. C'est pas une mincha avec de la farine, c'est de l'huile, seulement. Voilà. Donc, c'est, là, on sait. Il y a eu unification des pierres. Pourquoi unification des pierres? Parce que Yaakov Avinu, c'est celui qui représente l'unification. C'est l'unification, c'est-à-dire vous avez Abraham d'un côté qui tire du côté de Chesed, Yitzhak qui tire du côté de la Gvoura, Et lui, il unifie tout ça, il englobe tout ça. Et donc, c'est la perfection et c'est, si vous voulez, c'est le pendant de la qualité de Yaakov, que pour Yaakov, dans le monde, le monde aide Yaakov en quelque sorte à faire ce qu'il a à faire. C'est le Messias de Charim qui explique que, contrairement à ce que les gens pensent, que quand quelqu'un s'élève spirituellement, il se coupe du monde, de la réalité, etc. Et le Messias de Charim dit que ce n'est pas du tout vrai, que quand quelqu'un s'élève, son monde s'élève avec lui. On peut comprendre comme ça. Si quelqu'un s'élève, il fait une avoda à un certain niveau. S'il s'élève encore, il fait une avoda à un autre niveau. Mais on sait qu'on doit dire « Bishvili nivra olam », le monde a été créé pour moi. Le monde a été créé pour moi, ça veut dire le monde a été créé pour moi pour que je puisse servir Hachem avec le monde. Donc, évidemment que si on veut vivre à un certain niveau spirituel, il va falloir que l'environnement soit adéquat pour qu'on puisse s'appuyer, on peut utiliser cet environnement pour le mettre au service de la chaîne. Donc, il faut bien que tout monte, en fait, en fonction de lui. C'est-à-dire que la matière, le matériel, comme il est au service de l'homme, comme l'homme s'élève, le matériel s'élève aussi. C'est-à-dire qu'il y a, entre les choses et l'homme, il y a en fait une adéquation. C'est-à-dire qu'il faut les prendre ensemble. S'il s'élève, alors tout s'élève, sinon il ne s'élèverait pas. Je veux dire, de façon générale, qu'il faille aujourd'hui, quand on veut essayer de mesurer quelque chose, qu'il faut toujours prendre en compte l'homme ou l'appareil qui mesure les choses, ça c'est la physique. Donc les pierres se sont unies parce que Jacob est l'unificateur, en fait. Bon, maintenant, il est couché, Vayachalom, il rêve. Bon, alors, il y a tout, bon, il faut juste savoir que quand on voit Chalom, il faut penser que Chalom, c'est aussi Lechem, c'est aussi Lochem, c'est le pain, c'est le guerrier, donc c'est beaucoup de choses, Chalom. Mais voilà, la Torah, elle décrit le rêve. Alors, regardez le rêve. Vehine sulam mutzavar tzad rosho magia shamayim. Tout à coup, il y a une échelle. Cette échelle, elle est posée sur le sol et son sommet atteint le ciel. Vehine et voici malachei elokim olim veyordim bo. Et les anges d'Hachem qui montent et qui descendent sur cette échelle. Vehine, et voici, Hachem nissav alav. Hachem est au-dessus de l'échelle, mais aussi, en vérité, au-dessus de Yaakov. Et à ce moment-là, Hachem lui parle. On est toujours dans le rêve. Hein. Hachem lui parle et il lui dit, Ani, Hachem, je suis Hachem, donc il se présente, et il dit, je suis Elokei Avraham, Abicha, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Mon grand-père. Veloke Yitzhak, je suis aussi le dieu d'Yitzhak. Et voilà, Aharet Saterasha Shochev, Ashuratan Shochev Alea, la terre sur laquelle tu es couché, Lecha et Nena, je te la donnerai à toi et à tes descendants. Bon, alors, il y a un petit problème, c'est quoi qu'il va lui donner la place, c'est quoi, c'est. 1 mètre sur 50 centimètres, 60 centimètres, ou 2 mètres sur 60 centimètres, c'est ça qu'il va lui donner. Évidemment, on veut dire qu'il va donner tout le pays. Donc, pour qu'on puisse dire, tel que c'est dit à Aretz, à Shirata, Shokhev, ça veut dire que la terre d'Eretz Israël s'est en quelque sorte repliée et que toute la terre était sous lui. L'endroit où il était couché, c'est toute la terre d'Eretz Israël qui était sous lui. Parce que sinon, le pasouk, il n'a pas de sens. Qu'est-ce que Qu'est-ce que vous dites là de cette description du rêve de Jacob? Qu'est-ce qui est frappant dans cette affaire, dans ce récit? Non, mais regarde la forme du récit. Raconter une histoire. Un jour, il y a un des rabbinim qui a donné une lettre à quelqu'un. Il lui a dit, tu vas aller la montrer à Reb Kanievski. Il la regarde bien, il en dit bien, et que tu lui demanderas son avis ou dire. Et il est allé chez Reb Kanievski. Après, il a pris la lettre, il l'a lu comme ça, une fois, puis il l'a donné. Alors, il a dit, écoutez, le Rav, il m'a dit que de vous demander de la lire très attentivement. Alors, il dit, tu as lu, toi, la lettre? Oui, je l'ai lu très, très attentivement. Combien de fois, dans la lettre, il parle de son rebelle? Combien de fois c'est marqué Mori Verabi? Combien de fois c'est écrit ceci? Combien de fois c'est comme ça? Combien de lignes il y avait dans le... D'accord. Lui, il avait lu une fois. Il savait exactement combien de fois, combien d'occurrences de mots-clés il y avait, combien de lignes il y avait dans le document. Ici, quand on regarde ça, il faut regarder dans le détail. Qu'est-ce qui frappe? Qu'est-ce qui est intéressant? Ce qui est frappant, c'est le hiné. C'est-à-dire que hiné, ça veut dire voici, au sens de voici quelque chose qu'on ne s'attendait pas à trouver. Le texte, il est complètement haché. Hiné sous l'âme, voici une échelle. Voici des anges. Voici Hachem au-dessus. Voici. C'est incroyable. Voici Hachem lui parle. Pourquoi c'est toujours voici, 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 comme ça veut dire comme si chaque chose était une nouveauté, quoi, quelque part. Non, Michel, mais bon, avoir une échelle. Donc chaque chose, ça veut dire qu'il faut s'arrêter sur chaque chose et se demander qu'est-ce que chaque chose. Tu disais, on a l'impression qu'on n'apprend pas grand-chose, mais justement, les véhinés viennent te dire, attention, là, ça a l'air d'être courant, parce qu'à la limite, nous, on aurait très bien pu écrire tout ce récit-là, sans les véhinés. Il y a un soulame avec des gens, non, sans véhinés. Donc, ces véhinés, ils sont étonnants, quoi. Quelque part, ils viennent, il faut, bien sûr que, quand on a un texte, on a une redondance pareille, enfin, un nombre pareil de iné, c'est qu'il faut y réfléchir, quoi. Ça vient dire quelque chose. Ensuite, il lui dit, il lui annonce que ta descendance, elle sera aussi nombreuse que la poussière de la terre. Et toi, Ufaratsta, Yama, Vakedma, Tsapona, Vanegba, et toi, tu vas éclater. Poretz, ça veut dire éclater. Poretz, ça veut dire quelqu'un qui défonce les barrières, etc., va éclater dans toutes les directions. Côté ouest, est, nord, sud. Venivrechou, vechakol, mishprota, adama, uzarecha. Et en toi, grâce à toi et ta descendance, toutes les familles de la terre seront bénies. Ça, c'est, on connaît, c'est Hachem avait déjà dit ça à Abraham Avin. Veine, et voici. Anochi imach, je suis avec toi. Je suis avec toi. Shmarticha bechol asher telech. Et je vais te garder, te protéger partout où tu iras. Et puis, Vashivotecha et la Adama Azot, je te ramènerai dans ce pays. Kiloezavcha Adasher Imasiti et Asher Dibartila. Je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas fait tout ce que je t'ai dit que je te ferai. Voilà, c'est ça le rêve. Donc Hachem lui promet, il lui annonce une descendance absolument faramineuse, et il va lui dire, tu vas t'étendre, tu vas te répandre partout, etc. Et surtout, je serai avec toi, je te protégerai partout où tu iras. Donc on comprend que Jacob pouvait être assez effrayé de ce qu'il allait trouver, quoi. Il part à un endroit où il n'est absolument pas connu, et en fait, il n'a pas un sou. Donc, quand il se réveille, il dit « Achem, yesh Hashem, ma komaze ». Cet endroit-là, c'est un endroit où il y a une présence divine. Et moi, je ne le savais pas. J'ai entendu, si je l'avais su, je ne me serais pas couché. C'est assez étonnant parce que je vois que de t'être couché, ça t'a donné des brachotes qu'on ne peut pas imaginer. Je ne me serais pas couché, ça veut dire, mais si tu ne te couches pas, tu ne rêves pas. Et si tu ne rêves pas, tu n'as pas tous ces brachotes. Il y a une kedusha telle que je n'aurais pas osé me coucher à cet endroit-là. On ne peut pas dormir dans le Beth Amikdash. Même pour y rêver, je veux dire. Donc il a été plein de... Il s'est dit, mais finalement, j'ai dormi à cet endroit-là. Et il a eu très très peur. Il s'est dit, cet endroit, il est absolument terrible. C'est la maison de cet endroit-là, c'est la résidence Beth Elohim, c'est la maison d'Elohim, Zeshara Shamaim. Et ça, c'est la porte du ciel. Donc voilà, le matin, il se lève et il va faire quelque chose. Il prend cette fameuse pierre, il prend la pierre qu'il avait mise, Merachotav, comme oreiller protection, Vayasem Otam Matseva. Et il l'a mise comme Matseva, comme stèle verticale, Vaitsok Shemen Arosha. Il a versé de l'huile dessus. C'est comme ça, c'est ça la Avoda. Il n'a pas sacrifié un animal, il n'a pas fabriqué, je sais pas, une crêpe, il a mis de l'huile, that's all. Et puis, Vaikra et Shem Amakom, et il a nommé cet endroit Bethel. Mais en fait, c'est Aram Moria. Donc c'est pour ça que ça marche pas vraiment, on dit que je vous ai dit, le Moria, il est venu se mettre là, à cet endroit-là. En fait, cette ville, elle s'appelait Luz au départ. Mais maintenant, lui, il dit, moi, je dis que c'est Bethel. C'est la maison du Dieu, quoi. Et maintenant, Hachem lui a promis toutes sortes de choses. Maintenant, lui, en retour, il va s'engager aussi. Lui, il dit, voilà, si tu fais tout ce que tu m'as dit, si Hachem fait tout ce qu'il m'a dit, que je reviens effectivement et tout, alors, à Eben Azot, cette pierre-là, qui est une Maseva, elle va devenir, je vais construire le Beth Amikdash. Je vais, ça veut dire, ma descendance va construire. Et il dit, et en maintenant, il va payer de sa personne, il dit, Kol Asher Titenli, de tout ce que tu me donneras, je donnerai la dîme, je donnerai 10%. Donc, c'est ça le yosod de la mitzvah de Maaser. Et il est parti. Parti vers l'est. Et voilà. Et tout de suite, le verset d'après, on est arrivé. On est arrivé. D'après ce que je vous ai dit, c'est la deuxième fois. Il était déjà arrivé là-bas, mais il est revenu en arrière pour prier. Maintenant, il est de nouveau là-bas. Donc on a cette situation extraordinaire Jacob, qui rêve, tout ça c'est de la prophétie, c'est de la névoie. Parce que tous les prophètes, à l'exception de Moshe Rabbeinu, leur prophétie, ils l'ont toujours reçue uniquement ou bien en rêve, dans leur sommeil, ou bien ils tombaient en syncope. Et il fallait enlever la barrière de la conscience, qui empêche de recevoir la parole d'Hachem. C'est la condition humaine, quoi, qu'il faut s'ouvrir complètement. Et ça se fait quand on a baissé la garde, en quelque sorte. Que ce soit parce qu'on dort ou bien parce qu'on est tombé enceinte. Bon. Alors. Il arrive là-bas sur place et il y a un champ. Au milieu de ce champ, il y a un puits. Et il voit là-bas qu'il y a trois troupeaux où les animaux sont en train de se reposer. Et les bergers sont là, ils fichent rien. Sur le puits, il y a une très grosse pierre pour empêcher qu'on puisse en profiter de ce puits. Et Jacob arrive et il leur demande, frère, est-ce que vous connaissez, d'où est-ce que vous venez? Ils disent, on vient de Haran. Ah, d'accord. Alors, est-ce que vous connaissez Laban? Il précise, Laban, Ben Nahor. En fait, il n'est pas vraiment le Ben Nahor, hein. Il est le Ben Betuel qui est le fils de Nahor. Il est le petit-fils de Nahor. Et il dit, oui, on connaît. On connaît. C'est pas plus, quoi. Il leur dit, est-ce que il va bien? Il dit, oui, shalom. Et voilà, d'ailleurs, tu peux, arrête de me saouler, là. Voilà, la fille de Laban, elle est là avec son troupeau, Rachel. Jacob, il les a pas laissés tranquilles, hein. Alors, dis non, c'est encore plein jour, là. C'est pas le moment d'envoyer les bêtes se coucher, là. Vous avez encore du boulot. Pourquoi vous faites rien, là, pour... Elle dit, non, mais il faut qu'on fasse tout cela, parce que sinon, il faut rouler la pierre qui est sur le puits, on a besoin de tout cela, sans avoir. Lui, il a pris la pierre, il a abreuvé le pot de Raphaël, etc. Alors, avant de rouler la pierre, il a vu Raphaël, la fille de Laban, le frère de sa mère. Il a vu le troupeau de Laban, son frère, le frère de sa mère. Donc, il est allé, il a roulé la pierre. Il a abreuvé le troupeau. C'est intéressant. Et il a embrassé Rachel. Et il a pleuré. Et Jacob lui a dit qu'il était le frère de son père. Frère et neveu, c'était... Abraham, il dit aussi on est frère, alors que Lot, c'est son neveu, c'est pas son frère. C'est la même chose. Comme c'est l'enfant de son frère ou de sa sœur, donc il dit on est frère. Et il dit qu'il est le fils de Rivka. Elle court raconter ça à son père. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Donc, tout de suite, il l'a embrassé, puis ensuite, il a pleuré. Alors, il faut, pour qu'on comprenne quelque chose, il faut savoir une chose qui n'est pas marquée explicitement, mais que Lavan et Rivka, ils ont un deal. Lavan a deux filles, deux jumelles, et Rivka a deux jumeaux. Et ils ont décidé que ils allaient les marier ensemble. L'aîné pour l'aîné et le cadet pour la cadette. Et donc lui, Yaakov, c'est le cadet, Rachel, c'est la cadette. Donc il sait qu'il va se marier avec elle. Il voit cette fille-là. Bon. Tout de suite, voilà. Et puis il pleure parce qu'il voit qu'il sera pas. Il a vu Benevoix. On voit qu'on peut avoir des visions, de voir raconter, je sais pas. Bon, il n'est pas tombé des pommes ici. Mais il voit qu'il ne sera pas enterré en même temps qu'elle. Pas au même endroit qu'elle. Rachel n'est pas enterrée à Marpella, et c'est pour ça qu'il pleure. Bon, on va être séparés. Je dis que c'est Ouachakodeshkin. Ça, c'est une super réponse. Ouachakodesh. Je dis, mais il y a aussi une réponse plus. Beaucoup plus terre à terre. Le fichier Babi Adaim Rekagnot. Parce qu'il est venu, les mains vides. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai une kala, les mains vides. Il se dit, Eliezer, l'esclave de mon père, quand il vient, il est là avec des bracelets, des colliers, des cadeaux, etc. Et moi, j'ai rien. C'est là que Rashi rapporte que pourquoi il a rien, parce qu'Eliphaz l'a dépouillé. Donc, Rashi donne deux explications. Une explication spirituelle, on sera pas ensemble, on sera pas enterrés ensemble. C'est assez élevé, quoi, quelque part. Et puis une autre qui est vraiment plus terre à terre. C'est souvent comme ça, je vous avais raconté ces histoires, que quand il y a deux explications. La première, elle donne la grande idée. Et après, bon, on peut pinailler. Oh, d'accord, c'est pas plus important. Pas. Tu veux une vraie explication? Voilà. Explication terre à terre, concrète. Voilà, je n'ai pas un sou. Cette histoire de ce fameux deal entre Rachel et entre Rivka, pardon, et Lavan, c'est un peu étrange qu'on envisage ce genre de mariage, quoi, en fait. Elle sait qui est son frère. C'est la crapule que représente son frère. Comment elle peut, sans savoir comment les filles vont réagir, comment elles vont être, mais peut-être elles seront comme leur père. Si elles sont comme leur père, est-ce que ça vaut la peine est-ce qu'on peut s'engager avec des filles pareilles? J'ai plutôt l'impression que ça correspond plus, ces mariages, ça correspond à ce que je vous ai raconté en son temps sur les mariages endogamiques. C'est-à-dire que, au départ, les mariages endogamiques, ça veut dire que, au départ, un frère épousait sa sœur. C'est comme ça. Donc, c'est pas du tout que on regardait si elle est belle et pas belle, etc. Il épouse sa sœur parce que c'est comme ça. C'était pratiquement qu'une façon de perpétuer l'espèce, quoi. Faut bien avoir des enfants, ben alors voilà, un frère, une sœur, ils sont la prolongation de ce que les parents, voilà, va refaire les choses. Parce qu'effectivement, c'est pratiquement des frères qui épousent leur sœur, c'est des jumelles Une jumeau. Et on sait par ailleurs, donc, dans cette répartition, Léa, elle est allée, le Midrash dit que Léa, elle a pris des renseignements sur Essa. Elle est allée demander à la croisée des chemins, c'est écrit, elle est allée demander aux gens, connaissez Essa, qu'est-ce qu'il est, etc. Et quand elle a appris à qui on la destinait, alors elle s'est mise à pleurer régulièrement, et toutes ses larmes de son corps, et plus que ça, c'est pour ça qu'on dit qu'elle a les yeux complètement rouges, toujours gonflés, etc., comme on va le dire plus loin. Elle voulait pas, mais c'était pas chaillard de dire je veux pas. Donc, Rivka, Rachel court dire à sa mère, non, à son père justement. Ce qui est assez étrange, ça veut dire, elle raconte à son père. D'habitude, une fille, elle va raconter à sa mère. Mais bon, elle raconte à son père parce que dit Rashi, le fils est imameta. Donc, elle était obligée, dit Rashi, de lui raconter à lui, parce qu'elle n'avait personne d'autre à qui parler. Et lui, quand il a entendu ça, tout de suite, il s'est rappelé, Eliezer, quand il est venu, il était couvert d'argent, enfin, il était très, très, très riche. Enfin, ce jeune homme-là, qui arrive, c'est pas un jeune homme, il a 63 ans ou un peu plus. Non, 63 quand il est parti, plus 14. Donc, ouais, c'est plus tout à fait un jeune homme. Donc, ce garçon-là, il doit être très très riche. Donc, quand il le voit, il l'embrasse. En fait, il le fouille. Une fouille à corps. Il a rien dans les mains, donc il doit avoir un gros diamant caché qui doit être. Il a mis tout son argent dans un super diamant. Faut que je trouve le diamant. Donc, il l'a mis dans sa bouche ou un peu. Il a regardé. Il a rien. Il a vraiment rien. Et alors, bon, Lavan lui dit, mais bon, Atsmi ou Psari, la famille, je trouve que c'est important, je ne sais pas. Tu peux rester un mois ici, avec nous. Donc, je te reçois pas comme j'aurais reçu quelqu'un de très riche, etc. Mais t'es ma famille, alors je peux rien y faire. C'est uniquement parce qu'on est proche. Alors, je m'occuperai de toi pendant un mois. Et même ça, dit Rashi, lo lefinam, shaya roi tsonam, tsono, ouais. Parce que Yaakov, il s'est rendu utile, il a gardé le troupeau, il a joué le berger là-bas. Alors au bout d'un mois, il lui dit, ok, c'est terminé, mais bon, si tu veux continuer ton travail de berger, dis-moi qu'est-ce que est ton salaire. Ouais. Et là, on nous dit, voilà, que Lavan, il a deux filles, Léa et Rachel. Et puis on nous dit l'histoire sur les yeux de Léa, et on nous dit quelque chose de la beauté de Rachel, Yifat Toar, Yifat Maré. Et Yaakov a aimé Rachel. C'est la seule fois dont on dit qu'il a aimé. Quand quelqu'un a aimé, enfin, sur les gravotes, on ne dit jamais que. d'emblée, quoi. Sur Rivka, c'est marqué qu'il l'a aimé après l'avoir épousé, mais là, lui, il l'aime tout de suite. Enfin, bon, mais je vous dis, c'est possible que. Elle n'est pas mariée, mais bon. Je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire à ce moment-là, elle l'a aimé. Donc, il a dit à Laval, je travaillerai 7 ans pour elle. Pas d'argent, mais pendant 7 ans, je travaille pour ta fille. Il lui a dit, Rachel Bitra Haktana. Pourquoi il a tout précisé? Parce qu'il a dit, je ne veux pas que tu prennes une fille de la rue, n'importe qui, tu l'appelles Rachel, tu l'adoptes et puis tu me la donnes, après je te connais. Et je ne veux pas que tu me donnes la grande parce que je veux la petite. Donc, Rachel, ta fille, elle doit être vraiment ta fille, pas une fille de la rue. Et Bitra Haktana, elle s'appelle Rachel et c'est ta petite fille à toi, la plus jeune de tes deux filles. Ok. Laban il dit, oh bon, bah, tant qu'à faire, hein. Tov titi otalach, et titi otali shacher. Autant que la donner à toi plutôt que la donner à quelqu'un d'autre. Il m'a dit, ok, ça marche. Reste avec moi, travaille 7 ans et je te la donnerai. Bon, il a travaillé 7 ans pour elle. Et par amour, son amour pour elle était tel qu'il a eu l'impression que c'était quelques jours. Travailler 7 ans, il a l'impression que ça n'a duré que. C'est un travail de quelques jours, c'est tout. Et puis quand les voilà, au bout de 7 ans, il dit voilà, donne-moi ma femme. Le temps est passé. Alors on a un petit problème. Comme dit Rashi, c'est une drôle de façon de voir ma femme. Rashi dit, j'ai maintenant 84 ans. Quand est-ce que j'ai 12 shvatim encore à. Je dois avoir 12 fils, il est temps que je m'y mette. Donc donne-la moi, je veux avoir des enfants avec elle. Rachid dit, va alors, kal shebekalim eno omerke. C'est une façon de tellement grossière de parler. Elle a le olid toldot amarka. Mais il a dit ça comme ça parce que j'ai une tâche à faire. Je dois avoir ces 12 enfants. Donc, c'est à ce titre-là qu'il s'est permis de parler comme ça. C'est étrange parce que le Sifte Haramim sur place, il dit sur le fait qu'il a parlé comme ça, il dit Shein midrech hamusar sheyomar asachir tekef sheshalmu shnei avodato ave et avait Tsari. Moi, quand on lit Rashi, on voit que Rashi Kal Shebekalim ne parle pas comme ça. Il veut dire, on ne parle pas comme ça à demander une femme. Sifte Chachamim, il dit, quel était le problème? Le problème, c'est pas l'habitude que quand quelqu'un Quelqu'un qui a travaillé, le jour où ça se termine, il ne vient pas dire alors un bout de fric, quoi. Comme si c'était ça le problème. Bon, Rachid, il ne parle pas de ça, mais c'est étrange que le Sifsé Khachamim, il explique ça comme ça. Comme si le problème, c'était qu'il a, il a demandé trop violemment, trop directement son salaire. C'est pas ça qu'il a demandé. C'est pas ça le problème. OK, alors il lui a donné ça. OK, c'est bon. Il a fait la vanne, il fait un super festin. Hein, tout le monde est là, tout le monde est invité. Kolanche Amakon, il a invité tous les gens de l'endroit. C'est son festin. Et le soir, va écarter les habitants. Il a pris Léa et il l'a amenée à Yaakov et Yaakov a eu, il a passé la nuit avec elle. Il a donné à Léa une servante, Zilpa. Et Baboker, et le matin, voilà, le matin c'est Léa. On a dit toute la nuit elle était Rachel. Parce que Rachel avait donné tous les simanim. Parce que Rachel a dit à Yaakov, quand tu l'as dit, on va se marier, il lui a dit, mais mon père c'est un roublard. Alors Yaakov a dit, ne fais pas de soucis, je suis son frère, moi aussi. Et pour ça, il a donné un code. À Rachel. Il y a une grande discussion, quel était le code en question. Mais il a donné un code. Seulement quand Rachel a compris ce qui se passait, quand elle a vu que c'était que Laban était en train de tromper Yaakov, elle s'est dit, ma sœur, elle va se faire humilier, elle va se faire jeter. Elle a pas le code, donc Yaakov va la jeter. Donc, elle lui a donné le code. Et donc, Yaakov, il était sûr que c'était Rachel. C'est les jumelles. Enfin, bon, c'est vrai qu'elle n'avait pas les mêmes yeux, mais bon. Et le matin, il dit à Lavan, il dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait, là? Alors, Lavan, il a pris des grands airs et il lui a dit, chez nous, on fait pas un truc comme ça de donner la plus jeune avant la grande. Mais si tu termines cette semaine, c'est-à-dire là, on fait les Sheva Brachot, et puis je te donne Rachel, et tu travailles encore 7 ans pour moi. C'est ce qui s'est fait. La Torah, elle raconte que Yaakov, il a fait des reproches à Laban. Mais le Midrash, il raconte que Yaakov, il a fait des reproches à Léa aussi. Il dit, comment t'as pu me faire un truc pareil? Tu m'as roulé. Toi, tu savais que tu étais Léa et pas Rachel. Toi, tu m'as roulé. T'es une menteuse, quoi. Alors, elle lui dit, c'est toi qui me parles comme ça? Qu'est-ce que t'as dit à ton père quand il t'a demandé qui tu étais? T'as pas roulé ton père? Tu t'es pas fait passer pour ton frère? Je me suis fait passer pour ma sœur, parce que tu t'es fait passer pour ton frère. On est quitte. Bon, Yaakov, il ne l'a pas divorcé, il aurait pu divorcer. Il n'a pas divorcé, il a compris que c'était Menachemaim, et que il aurait, en fait, finalement, c'est Léa qui aura le maximum d'enfants. Donc les Shvatim sont essentiellement les enfants de Léa, ou de la servante de Léa. Après, sinon, la servante de Rachel, elle va aussi avoir 2 enfants, et Rachel, elle va en avoir 1, et un deuxième quand, au moment où elle va mourir en couche, elle aura Binyamin. Donc, elle aura 2. Donc il y en a quatre qui sont de Rachel et compagnie, quoi, et extension, et les huit autres sont de Léa et extension. Et finalement, qui est-ce qui est dans la Maratha Marpella? C'est Léa. Donc c'est pas du tout ce que Jacob s'imaginait. Bon, alors évidemment, ça se passe mal, parce que Léa, elle sent bien que elle voit bien comment Rachel est traitée, comment Jacob traite Rachel. Il voit bien qu'elle n'a pas le même traitement que Rachel. Elle voit bien que il aime Rachel, qu'elle, il ne l'aime pas. Comme il manifeste pas, en tout cas, pas autant, effectivement, que Rachel. Et donc, elle se sent quasiment haïe, littéralement haïe. Et du coup, Hachem, il entend cette, Vayar Hachem qui se noie Léa. Hachem a vu que Léa était haïe. C'est pas imaginable que Jacob la haïsse. On n'a pas le droit de haïr, c'est un issour dans son cœur. Mais je pense que c'est sûr qu'il y avait une différence. Il traitait sûrement pas l'une Léa comme Rachel. Alors, c'est marqué dans le pasouk, Vayav gam et Rachel miléa. Évidemment, il préfère Rachel. Donc, Hachem voit que Léa, elle se sent noie. Alors, Vaiftach et Rachma de Rachel Akara. Donc, Hachem fait. Il rétablit un espèce d'équilibre. C'est-à-dire qu'elle, elle a des enfants et Rachel est stérile. Intéressant, ça veut dire que c'était pas suffisant de faire en sorte que Léa ait des enfants. Si Rachel avait eu aussi des enfants, alors voilà, bon. Il fallait qu'elle ait quelque chose que Rachel n'ait pas. On l'a dédommagée en quelque sorte de la situation dans laquelle elle est. Elle va avoir une série de garçons. Et Rachel est toujours. Akara, elle est toujours stérile. Et dans le passouk, le premier passouk du chapitre Lamed, le plus bas, le passouk d'Ivateré Rachel qui yalda le Yaakov. Qui lo yalda le Yaakov. Rachel a pris conscience que, finalement, avec tout ce temps, le temps passe et j'ai toujours pas donné d'enfant à Yaakov. Vatkane Rachel Bachota. Et finalement, elle est devenue jalouse de sa sœur. Alors, Rachel est un peu embêté, probablement, Vatkane, la kina, la jalousie, c'est pas une bonne mida. Rashi dit, kina ve maasea tovim. Elle était jalouse des maasim tovim de Léa. C'est-à-dire, elle se dit, amra ilule, she satka mimeni, nozartal banim. Si ce n'était qu'elle est plus tzadekette que moi, elle n'aurait pas eu tous ses enfants. Elle, elle ne pense pas que c'est une compensation pour son statut, parce qu'elle est la femme préférée. Elle pense que, voilà, si elle a des enfants, c'est qu'elle est plus tzadeket que moi. On est dans un monde où d'avoir des enfants, c'est un signe de tzidkout. Quand Agar a un enfant alors que Sarah n'en a pas, du coup, elle se dit que bon, ma maîtresse Sarah, qui était absolument admirative, tout à coup, elle dégringole. Bon, il doit y avoir quelque chose chez elle. Il doit avoir pas des bonnes midotes, parce que sinon, comment ça se fait que moi, du premier coup, j'ai un enfant avec Abraham, et elle est des années avec lui, elle n'a pas d'enfant. Donc, on est dans un monde où d'avoir des enfants, c'est le signe de tzidkout. Alors, du coup, elle se tourne vers Yaakov. Elle lui dit, Havali banim, donne-moi des enfants. Vim aïn, meta anochi. Si tu m'en donnes pas, je suis morte. Effectivement, si on n'a pas d'enfant, alors on n'a pas de prolongation dans le futur, c'est une forme de mort. Il y a toutes sortes de formes de mort, c'en est une. Et alors là, c'est étrange, non? C'est Yaakov qui est censé avoir de bonnes midotes, etc. Vaïchar, Af, Yaakov, Berachel. Donc là, Yaakov s'est mis en colère contre Rachel. Et il lui a dit, Atachat Elokim Anochi, est-ce que je suis à la place, tu me prends pour Dieu ou quoi? Asher mana mimech pribaten. C'est Elohim, c'est Hachem qui t'a privé, mais il t'a privé toi d'enfants. Moi j'en ai des enfants. Incroyable. Alors du coup, elle lui donne sa servante. En disant, ben voilà, peut-être je vais le construire de cette manière-là, quoi. Et effectivement, la servante a des enfants. Et du coup, Léa, elle s'aperçoit qu'elle a plus maintenant d'enfants, donc elle donne aussi sa servante à Yaakov, qui donne aussi, qui lui, la servante, elle aussi, deux enfants. Et pendant tout ce temps-là, Rachel est toujours stérile. Alors, bien sûr, d'avoir parlé comme ça à Rachel, à Yaakov, ça va lui coûter cher. Hachem, il n'a pas vraiment apprécié. Hachem a dit à Yaakov, c'est pour ça qu'on parle à une femme qui souffre. Hachem dit, il a dit, Atachat Elohim, Rimim Komo Ani, parce que je suis le bon Dieu, moi. Asher Mana Mimech. Tu Atamrat, chez Seke Abba. Est-ce que tu. C'est pas dit, mais moi j'ai dit. Que Yaakov lui a dit, tu me dis que je dois faire comme mon père. Mon père, il a prié. Donc, tu me demandes de prier. D'accord? Mon père, il a prié avec Rivka. Tu me demandes de prier. Ani, Eni, Kiaba. Je suis pas comme mon père. Loa Yolobanim, mon père. Mon père, il n'avait pas d'enfant. C'est pas qu'il a prié. Ani yesh li banim. Mimech mana, lo mimeni. C'est de toi qu'Hachem a, c'est toi qu'Hachem a privé l'enfant, pas moi. Je ne sais pas. C'est très, très difficile à comprendre. Hachem lui a dit, il a dit à Yaakov, tu vas être puni, tes enfants, ils vont devoir se prosterner à son enfant, à l'enfant de Rachel, Yosef. Quand les frères ils viennent en Égypte, ils se prosternent devant lui. Donc ils vont être, ils vont, tes enfants, ils vont devoir se prosterner devant l'enfant de cette femme que tu traites si mal. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas exactement si. En réalité, je ne sais pas en quoi le fait qu'ils vont devoir se prosterner, c'est une punition à la hauteur de ce que Jacob lui a dit, quoi. C'est tellement énorme ce qu'il lui a dit qu'on est abasourdi. Je sais pas, je suis abasourdi. Toutes les années, je comprends toujours pas. Ça s'arrange pas avec les années.
C'est peut-être à cause des simanim à Léa, donnés à Léa. En quelque sorte, tu as renoncé toi-même à être ma première épouse.
Ah, mais c'est pas une raison pour lui parler de cette manière-là. Ça, c'est une grande question, si vous voulez. Le problème de savoir... Rachel, elle a choisi entre... On pourrait dire qu'elle a choisi entre sa sœur et lui... Sa sœur et son khatan, elle a choisi la sœur. En fait, elle n'a pas choisi la sœur, elle a choisi d'éviter à sa sœur une humiliation. D'un autre côté, c'est aussi une humiliation pour Yaakov. Dans le Zohar, c'est marqué que Reuven, c'est presque un mamzer. Parce que quand on va avec une femme et qu'on pense entièrement à une autre, c'est presque un mamzer. Alors lui, il pensait qu'il était avec Rachel. Et tout ça, est-ce que ça peut justifier de parler sur ce ton-là? Il ne lui a jamais fait. Enfin, on ne voit pas qu'il en ait voulu. Il a l'air d'avoir compris ce qui se passe, ce qui s'était passé. Il en a peut-être voulu un peu à Léa de l'avoir trompé, mais elle lui a répondu du tac au tac. D'accord? Mais à Rachel, on voit pas qu'il lui ait dit une chose pareille. Il lui fait un reproche. Jusqu'à présent, on peut penser que il a compris ce qu'elle faisait. Il a compris que c'est insupportable de voir sa sœur se faire humilier en public, quoi. Tout le village est là, toute la ville est là, et elle va se faire virer, quoi. Je sais pas. C'est des mots tellement durs, c'est très, très difficile de, enfin, ça m'est très difficile, il y a sûrement une explication que je ne connais pas. C'est pas vraiment qu'il en est. Voilà, désolé, on a dépassé l'heure.